Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
France Culture, bienvenue donc dans Soft Power 19. 19, c'est le magazine des industries culturelles et du numérique au temps du coronavirus. Émission spéciale sur les conséquences économiques du fait de cette épidémie du Covid-19 sur la culture, les médias, le numérique, les industries culturelles et créatives et tout ça jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à la fin du mois de juin. Les semaines que nous sommes en train de vivre sont à la fois complexes, compliquées, tristes, singulières et quelquefois passionnantes, avec des mouvements de solidarité, des pétitions, des mobilisations. Je pense par exemple aux libraires, aux éditeurs, aux auteurs qui se mobilisent ce week-end dans le journal Le Monde. Monsieur le Président, n'oubliez pas le livre, signe plus de 625 auteurs, ou encore les auteurs sont les grands absents du dispositif d'aide à la culture, notre collectif de 640 écrivains qui réclament des mesures et puis un mot-clé, un hashtag comme on dit sur les réseaux sociaux, tous en librairie pour inciter les Français à retourner dans les librairies. Je pense également à La France a besoin de nous, le mouvement lancé par Stéphane Bern, un appel à réveiller l'économie locale, notamment à se rendre dans les bâtiments lorsqu'ils sont ouverts, je pense au lieu du patrimoine. La France a besoin de nous et aussi de la visiter cet été. Autre exemple, engageons-nous tous pour la scène française, c'était dit il y a un instant par nos confrères de France Info, Patrick Bruel, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, Clara Luciani, Jean-Noël Tron, le patron de la SACEM que nous recevions dimanche dernier, la présidente de Radio France, Sybille Veil, Laurent Voulzier, 136 artistes et acteurs du monde culturel qui aussi s'engagent pour une scène française cette saison. Et puis il y a des polémiques également, comme par exemple d'autoriser la réouverture du Puy du Fou, parc à thème régional apprécié de beaucoup, et notamment en Vendée, avec une date précise, communiquée directement par SMS par le président de la République en conseil de défense. Alors qu'aucun festival, ni parc, ni théâtre, aucun grand musée ou opéra ou scène rock, encore moins des restaurants ni des cafés, eux n'ont reçu la moindre information, donc tout le monde est dans le vague et le flou, sauf la famille de Villiers et leur Puy du Fou, de poids, de mesure. Et puis bien sûr, la tristesse et le deuil, comme cette une ce matin, magnifique et en même temps horrible, du New York Times en hommage aux 100 000 morts du coronavirus aux États-Unis. Cap franchi ce week-end avec plus de 1000 noms qui apparaissent comme ça, qui sont publiés avec une longue liste, liste de morts. Jamais une n'avait été faite sans image, d'ailleurs sans article dans le New York Times. C'est une idée de Simone Landon qu'il a réalisée pour le New York Times et c'est une impressionnante à voir. Voilà pour quelques-unes des initiatives que nous voyons ces jours-ci se passer, avoir lieu, ce mouvement de mobilisation, ces Français qui innovent, qui ont des idées, qui créent des dispositifs pour une France qui va peu à peu se remettre, espérons-le, à marcher. Alors, au sommaire de cette émission Soft Power, ce soir, nous évoquerons ces thématiques à travers quatre sujets principaux. La politique culturelle, notamment avec le Festival de Cannes, qui aurait dû se terminer ce week-end. Les galeries d'art aussi, on retrouvera Zoé Sfez sur ces sujets. Le numérique ensuite, avec débat polémique, l'application Stop Covid et la question du télétravail. On parlera aussi au cours de cette émission des EdTech, à savoir les technologies de l'éducation. Et nous serons sur ces sujets avec Yves Barou, ancien président de l'AFPA et DR. Emmanuel Paquet de L'Express et Nicolas Prinsen, le fondateur de l'application Gloz. On parlera enfin des médias et des industries culturelles ce soir avec Sandrine Cassini du journal Le Monde et Emmanuel Kiva de l'agence de l'innovation de défense, le ministère de la Défense qui veut faire, oui, de la science-fiction. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power 19 ce dimanche dans ce format spécial jusqu'à l'été. Et puis un petit message pour terminer ce billet d'ouverture, petit message de remerciement à Joshua Wong. Maintenant, le jeune activiste hongkongais, au moment même où de nouvelles manifestations ont lieu à Hong Kong, après la présentation par Pékin d'un projet de loi sur la sécurité nationale, prétexte à une emprise croissante de Pékin sur les 7 millions de Hongkongais de cette région administrative spéciale, il se mobilise dans les rues ce week-end. Mais parallèlement, Joshua Wong donc, nous a fait parvenir 1 millier de masques de protection pour nos équipes à Radio France. Alors on a apprécié ce geste de solidarité, on l'aurait d'ailleurs tout autant accepté de la part des Chinois de Pékin ou des Taïwanais ou des Singapouriens, etc. Ça n'affecte en rien notre liberté de commentaire, bien sûr, mais on voulait le remercier. Cette semaine, on reviendra d'ailleurs sur la crise politique de Hong Kong qui se détériore fortement ce week-end dans les matins de France Culture et dans Culture Monde. L'émission Soft Power de ce soir réalisée par Perret Legras avec en régie Nasser Moussaoui. Merci à tous les deux pour votre présence à mes côtés en studio. Cette émission a été préparée par Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux David Pata. Vous pouvez la suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power spécial Covid-19 jusqu'à 19h30 sur France Culture. En direct, vous avez le programme. C'est parti. Commençons par l'un des sujets de la semaine à venir, Stop Covid. Et nous sommes par liaison numérique avec Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
L'application Stop Covid pour smartphone vise à lutter contre l'épidémie. Elle devrait faire l'objet d'une présentation officielle cette semaine au Parlement, suivie d'un vote ce mercredi à l'Assemblée nationale. Pour Emmanuel Paquette, une mise en place le 2 juin.
Exactement. Alors, c'est une mise en place qui a été déjà retardée à plusieurs reprises. D'une part, parce qu'il fallait un agenda qui puisse présenter cette application aux élus. Et puis aussi pour des problématiques techniques, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se sont mis autour de cette initiative afin de faire sortir une application qui puisse fonctionner correctement sur les téléphones équipés d'Android, donc de la technologie Google, ou les téléphones équipés d'iOS, donc de la technologie Apple. Alors pour ça, il y avait deux choix technologiques. Un choix européen qui était poussé directement par Margrethe Vestager, donc la commissaire européenne, pour une approche commune européenne. Alors cette technologie, ce protocole-là s'appelait PEPPPT, PE veut dire pan-européenne, pour une technologie pan-européenne. Et l'autre technologie, celle qui est plutôt soutenue par Google et Apple, c'est la technologie, le protocole DP3T. Alors quelle est la différence, sans trop rentrer dans la technique, puisque moi-même je ne suis pas un technicien, mais dans le cas de PEPPT, donc la technologie européenne, tous les éléments sont centralisés dans une base de données. C'est-à-dire que vous, Frédéric, ou moi, quand je croise quelqu'un, cet élément-là part dans un serveur, et ce serveur met en relation des gens qui ont été infectés avec les gens que j'ai pu croiser. Et si d'aventure j'ai croisé des gens infectés, un message m'est envoyé en disant « Vous avez croisé quelqu'un de contaminé, vous devriez peut-être vous faire tester ». Donc ça, c'est l'approche française et ça devait être l'approche européenne. De l'autre côté, l'approche de Google et d'Apple, c'est de dire que ces données-là doivent pas voyager, doivent rester dans le téléphone. Donc on a toujours un serveur central dans lequel il y a les cas des personnes contaminées. Et cette liste vient sur votre téléphone, est croisée avec les gens avec qui vous avez pu rentrer en contact. Et dans votre téléphone, on vous dit, attention, vous avez croisé une personne qui était susceptible d'être contaminée, donc vous devriez vous faire dépister. Donc, pour simplifier, dans le cas de l'approche européenne, on a un serveur qui centralise toutes les données. Dans le cas d'Apple et Google, la majorité des éléments restent sur le téléphone. Mais dans tous les cas, les éléments sont anonymisés, pour faire en sorte qu'il y ait un respect de la vie privée et qu'on puisse pas savoir qui a croisé qui et puis que quelqu'un puisse acquérir ces données-là et puisse savoir exactement qui est infecté de qui ne l'est pas.
Alors depuis plusieurs semaines, Stop Covid suscite des débats. On verra le débat au Parlement cette semaine qui va avoir lieu. Quelles sont, selon vous, les erreurs qui ont été commises, puisque la critique est récurrente? Est-ce que c'est parce qu'on a voulu une application souveraine sans en avoir vraiment les moyens et refuser Apple et Google et donc au fond faire une erreur d'efficacité? Ou est-ce que c'est au contraire ce que je pourrais appeler le solutionnisme numérique? On a voulu, au travers une application, résoudre un peu tous les problèmes de l'épidémie?
En fait, il y a plusieurs erreurs qui ont été commises. Déjà, le nom, Stop Covid, puisque quand on en parle aujourd'hui avec les instigateurs, ils regrettent d'avoir utilisé ce nom, parce que Stop Covid, évidemment, l'application ne va pas arrêter la propagation du coronavirus. Donc c'est une promesse qui, d'emblée, ne peut pas être tenue. Et le nom en lui-même, même si c'est peut-être anecdotique, mais le nom en lui-même ne peut pas tenir les promesses de l'application, puisque c'est qu'un des éléments parmi d'autres pour freiner la propagation du virus. Donc déjà, un point de, sur le nom. Le deuxième point, c'est ce dont je parlais précédemment, c'était une initiative qui au départ devait être pan-européenne. Donc tous les pays devaient utiliser le même protocole de communication, ce qui faisait que si vous et moi, dans les mois qui viennent, on pourrait voyager et partir en Espagne ou en Allemagne, et ben du coup, on pourrait croiser les bases de données et savoir aussi si à l'étranger, on a croisé des cas de gens qui étaient potentiellement contaminés. Or, ce qui s'est passé en Europe, c'est que chaque pays a changé d'orientation, et en réalité, il y a une fragmentation, un manque d'harmonisation européenne qui fait que chaque pays est parti de son côté. La France et l'Allemagne, qui devaient faire cause commune autour d'un protocole européen, en fait, ne font plus du tout cause commune. L'Allemagne a décidé finalement de s'approcher de la solution d'Apple et de Google, et la France, elle, est restée un peu toute seule avec la Norvège à vouloir soutenir ce protocole PEPPPT, quand on voit que tous les autres pays, l'Italie, l'Espagne, etc., ont basculé dans le camp Apple, Google, notamment parce que Apple est prêt à fournir des éléments qui sont liés donc à la reconnaissance de personnes qu'on peut croiser via la technologie Bluetooth. Et la technologie Bluetooth aujourd'hui a un problème, c'est-à-dire que elle permet de géolocaliser les personnes autour de vous, en tout cas dans un périmètre relativement restreint, de dire avec qui vous avez été mis en contact. En revanche, elle consomme beaucoup de batterie si elle reste allumée. Donc il faut forcer l'application pour qu'elle reste allumée tout le temps sur votre téléphone. À Singapour, qui a été un des premiers pays à lancer ce type d'application-là, ça a été un échec complet, justement, puisque l'application s'éteignait d'elle-même sur les iPhones, faute d'avoir à l'époque le soutien d'Apple et de Google.
Or, il faut, on le rappelle, une adoption massive, hein, on dit 70% peut-être des Français pour qu'elle fonctionne.
Exactement. Alors pour ça, il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'équipement. Est-ce que les gens sont équipés de smartphones? Il se trouve qu'en France, selon les dernières données qu'on peut avoir, il n'y a que 77% de la population qui est équipée d'un smartphone. Donc déjà, ça pose une première question. Qu'est-ce qu'on fait des 23 autres pourcents, généralement plutôt des personnes âgées, qui ne sont pas équipées? On peut pas les laisser à l'extérieur d'un système qui peut aider à éviter la propagation du coronavirus. Donc premier point, l'équipement en téléphone mobile. Ensuite, le deuxième point, effectivement, comme vous le notiez, c'est l'adoption, puisque dans la plupart des pays où ce type d'application a été développé, le pays le plus en pointe aujourd'hui, c'est l'Islande, avec un taux d'adoption de l'ordre de 38%. Donc même avec 38%, on est loin des 60-70% évoqués pour que l'application puisse tenir ses promesses. Quand on regarde au niveau de la Norvège, on est autour de 17%, l'Autriche autour de 7%. Donc le taux d'adaptation par la population est très faible. Et puisqu'elle aujourd'hui, elle est choisie, elle n'est pas imposée par les gouvernements, en tout cas en Europe. Et donc, de fait, la population doit, connaître l'existence de cette application, et deux, l'installer et la laisser allumer quand les personnes sortent, pour pouvoir qu'elle soit utile.
Erreur aussi peut-être française, de la grenouille qui s'est pris pour un bœuf, ou disons le crapaud qui s'est pris pour un taureau, à savoir une application pilotée par des chercheurs de l'INRIA, certes géniaux mais peu opérationnels, avec Capgemini, Thales et Orange, bref, une usine à gaz, à la fois bureaucratique et française, et faite dans l'urgence. C'était l'échec assuré.
Alors l'échec assuré, je ne sais pas, mais effectivement, il y a beaucoup d'intervenants aujourd'hui qui se sont mis autour de cette application française. Même d'autres sociétés qui au départ n'étaient pas dans ce projet, comme Orange, qui avait mené son propre projet à côté, où finalement a été récupéré par le gouvernement pour se s'allier à Stop Covid. Donc effectivement, aujourd'hui, on a de nombreux intervenants au sein de cette entité, des intervenants du domaine public, comme l'INRIA, l'INSERM, et puis des entreprises privées, comme Dassault Systèmes, Thales, Orange, qui essayent d'apporter leur technologie et leurs solutions. Donc tout ça à faire, plus des startups, comme WeThings, par exemple. Donc il faut faire travailler tous ces gens ensemble, c'est compliqué. Effectivement, des fois, la bureaucratie française fait que c'est compliqué aussi pour des startups de venir s'associer à ce dispositif. Certaines d'entre elles ont pu attendre 15 jours, 3 semaines avant juste d'avoir pu avoir un contact avec les chercheurs qui travaillaient sur cette application. Donc on voit que l'efficacité et le fait de faire travailler tout le monde, du coup, ça prend du retard et ça complexifie effectivement la création de cette application.
Sans vouloir personnaliser, on dit aussi de sources gouvernementales qu'il y a eu une erreur d'avoir confié ce projet à Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, car c'était peut-être au ministère de l'Intérieur ou au pire au ministère de la Santé de le piloter. Cédric O n'avait ni l'expérience politique ni l'autorité ministérielle en tant que juste secrétaire d'État pour gérer un projet à la fois ambitieux et urgent. Il a voulu aussi un peu se pousser du col, hein, en période de remaniement potentiel pour exister dans les médias. Tout ça a fait beaucoup de tensions, a suscité beaucoup de tensions, notamment au groupe, au sein du groupe La République En Marche, même si la scission de La République En Marche n'est pas liée, bien sûr, à cette application Stop Covid. La plupart de ceux qui sont partis de La République En Marche étaient des opposants à Stop Covid.
Exactement. Alors dans l'opposition déjà, le Parti Socialiste avait déjà dit qu'il ne voterait pas pour la création d'une telle application. D'autres partis politiques ont fait de même. Donc on voit aujourd'hui une fracturation qui dépasse même le clivage traditionnel entre la gauche et la droite ou En Marche et ses opposants. On voit que c'est extrêmement clivant entre des tenants de la vie privée et de la liberté. D'un côté, en disant que malgré tout, les choses techniques qu'on peut apporter à cette application pour préserver la vie privée et les données personnelles, on peut pas être certain à 100% que les données soient totalement anonymisées ou qu'il n'y ait pas à un moment ou un autre des failles de sécurité qui puissent permettre à un attaquant, par exemple, de mettre la main sur des données de santé. Donc ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est quelle sera l'efficacité. On en a parlé précédemment. Ça va donc dépendre de l'adoption massive ou non des gens et puis du taux d'équipement en smartphone. Et là aussi, on voit qu'il y a des carences, notamment avec le 23% de la population qui n'est pas équipée. Donc effectivement, on est sur un débat qui devient extrêmement politique et extrêmement sensible, et au sein même de la majorité.
Alors on pourrait rajouter d'autres critiques. La procédure des marchés publics n'a pas forcément totalement été respectée. Le fait de ne pas avoir voulu passer par la loi, mais d'avoir, sous prétexte de Covid-19, on devait aller vite tout faire et hop, adopter cette mesure. Mais alors si on veut se faire malgré tout l'avocat un peu du diable, d'abord, maintenant il y a un débat au Parlement, donc c'est une première chose. D'autre part, il n'y a pas que la vie privée dans les valeurs humaines. Il y a aussi, par exemple, la santé publique ou alors la technologie française ou encore l'expérimentation. Et j'aimerais terminer sur ce point. Est-ce qu'Emmanuel Paquette, un argument en faveur de cette application Stop Covid, ça ne serait pas justement l'expérimentation? Finalement, au cas où un jour on ait une épidémie bien plus dangereuse, bien plus grave, est-ce que tester avec des appareils français, avec un consortium français, une réponse massive, est-ce que c'est pas l'occasion de le faire, grandeur nature, même si peut-être ça ne servira pas totalement pour cette épidémie-ci?
Alors effectivement, ça peut être un point intéressant de créer une expérimentation pour une prochaine fois, parce qu'il risque d'y avoir effectivement une prochaine fois. L'autre risque, en revanche, c'est de tomber à un moment ou à un autre dans le biais de Singapour. Singapour, donc, avait créé cette première application qui ne fonctionnait pas et qui aujourd'hui en a développé une seconde. Et cette application, cette fois, elle est imposée aux citoyens. Et de fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que les citoyens, s'ils veulent rentrer dans des commerces pour faire leurs courses, ils sont obligés d'être équipés au préalable de cette application. Et donc, l'efficacité de l'application, c'est, comme on le disait précédemment, son adoption. Et pour être certain que l'adoption soit massive, eh bien, il faut forcer les gens. Et en l'occurrence, certains États autoritaires le font. Et là, ça peut fonctionner.
Dernier sujet, et rapidement, pardon, on se presse un petit peu ce soir, Emmanuel Paquette. Une annonce a suscité dans un tout autre sujet, un tout autre domaine, même si c'est aussi lié à l'épidémie d'une certaine manière. Une annonce qui a suscité beaucoup de débats, celle de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a annoncé cette semaine dans une interview prévoir que 50% des salariés de Facebook seront en télétravail désormais. On dit en anglais home working ou tout simplement remote. Ça veut dire à distance. Mark Zuckerberg donc a proposé que les salariés de Facebook, c'est-à-dire quand même des dizaines de milliers de personnes, restent pour au moins la moitié d'entre eux d'ici quelques années à domicile pour travailler. Un changement de grande ampleur pour ces salariés-ci, y compris le recrutement à distance, ce qu'on appelle le remote hiring, et d'une certaine manière quelque chose qui peut-être annonce des évolutions dans le secteur de la technologie, de la culture, des médias et bien plus que ça au-delà.
Oui, exactement, parce que aujourd'hui, Facebook, avec 45 000 salariés, notamment une grande partie à Menlo Park, donc au siège de la société, pour y faire aussi à cette occasion beaucoup d'économies, des économies notamment sur les salaires, puisqu'aujourd'hui Facebook peut donner un bonus de 10 000 à 15 000 dollars à des salariés qui s'installent près du siège de Facebook, puisque les loyers sont extrêmement chers en Californie. Donc ça ferait faire une grosse économie à la société et également aux salariés qui vivraient plus loin que San Francisco. Deuxième source d'économie, c'est les loyers donc des bureaux, puisqu'on a besoin de moins de mètres carrés quand les gens télétravaillent. Et puis l'autre élément important d'économie, c'est la restauration, puisqu'aujourd'hui dans la Silicon Valley, la plupart des grandes entreprises offrent gratuitement les repas à leurs salariés. Or, quand vous êtes chez vous, ben c'est vous qui vous préparez vos repas, et donc c'est un coût en moins pour l'employeur. Donc on voit tout l'intérêt pour Facebook de passer à un mode comme celui-là. D'autres sociétés ont déjà dit qu'elles feraient de même. Il y a eu Twitter, il y a eu Square, il y a eu Box, il y a eu Shopify, qui est une société de e-commerce canadien, et même PSA, le français PSA, dans l'automobile, a dit qu'il réfléchissait très sérieusement à faire en sorte que le télétravail se généralise dans son entreprise. Alors, juste un petit point, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu un sondage fait à San Francisco, et que 2/3 des salariés de la technologie à San Francisco seraient prêts à télétravailler et même quitter la ville, voire quitter l'État, afin d'avoir une qualité de vie supérieure, ne pas être bloqué dans les transports, ne pas mettre des heures pour arriver au bureau, et puis avoir soit une maison, soit un appartement plus grand dans une ville moins chère. Donc on voit que, au premier abord, ce type de projet séduit les salariés. Mais dernier point quand même, il faut savoir que c'est rien de nouveau. Il y a eu pas mal de tentatives dans le passé, notamment IBM. Il faut savoir qu'en 2009, 40% des salariés d'IBM, qui à l'époque en avait 386 000, étaient travaillés en télétravail déjà. Yahoo avait fait la même chose pendant plusieurs années. Et Bank of America aussi. Et ces sociétés-là, en 2017-2018, sont revenues en arrière en disant que ça posait aussi pas mal de problèmes, notamment sur le fait que les gens ne se croisaient plus, et donc il y avait manque de créativité, manque d'innovation au sein du groupe, surtout dans des grandes équipes. Et ils sont un peu revenus du télétravail en demandant à relocaliser les emplois au sein de grandes sociétés.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. On parlait du télétravail, en anglais home working, tout simplement remote, ça veut dire à distance, un nouveau mot qui est en train de s'imposer, même en France, tant le mot télétravail est un peu ringard et souvent obsolète. On téléphone plus en faisant du travail, mais c'est autre chose. On attend sur ce sujet l'avis de l'Académie française, sans aucun doute, sur le remote. Yves Barou, maintenant, est avec nous par liaison téléphonique. Yves Barou est président du Cercle des DRH, les directeurs des ressources humaines européens. Il est ancien DRH de Thales, ancien président de l'AFPA, qui s'occupe de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
On fait le point ce soir sur quelques sujets d'actualité avec vous qui concernent des millions de Français, autant du chômage partiel, du déconfinement et du télétravail justement. On en parlait à l'instant avec Emmanuel Paquette à propos de Facebook. Le télétravail est en train de se généraliser, il s'est généralisé pendant le confinement, il l'est encore, il en restera peut-être quelques mois cet été. Comment vous, en tant que président du cercle des DRH, ancien DRH vous-même d'une très grande société française et ancien président de l'AFPA, vous pensez que le télétravail fonctionnera?
Une remarque d'abord, si vous permettez, cette crise, l'irruption du numérique dans la vie de la société, elle remet en cause des croyances solidement établies. Qui aurait pensé que l'État allemand allait investir 20% dans le capital de Lufthansa? Qui aurait pensé que la sacro-sainte règle de 3% du déficit public allait sauter comme ça? Qui aurait pensé qu'on aurait en même temps 9 millions de salariés en France au chômage partiel et 6 millions en télétravail? Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles, des fenêtres s'ouvrent, c'est le numérique qui envahit l'organisation du travail. Les fenêtres s'ouvrent, c'est pas une raison toujours de s'y jeter sans réfléchir. Alors, le télétravail, ça peut concerner qui d'abord? Je crois qu'en France, ça peut concerner le tiers des salariés, alors surtout des salariés déjà formés, surtout des cadres, surtout dans le tertiaire, surtout dans les villes, le tiers des salariés. Par comparaison, au Royaume-Uni, c'est plutôt 44%, l'économie britannique étant plus tertiarisée que l'économie française. Globalement, il y a des entreprises qui étaient prêtes, d'autres qui ne l'étaient pas, mais globalement, ça s'est pas mal passé, même s'il y a eu des problèmes. On fera le bilan sur la santé, il y a forcément quelques soucis, il y a des problèmes de connexion, de déconnexion, d'horaire, des problèmes d'équipement. Mais globalement, ça s'est bien passé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les questions que ça pose. Parce que le télétravail, finalement, c'est un révélateur, un décapant. Bizarrement, ça pose aussi la question sur le travail en présentiel, comme on dit maintenant. Pourquoi, par exemple, quelle est l'utilité d'une réunion facilement informatif si quelqu'un parle, si c'est à sens unique, et si on ne fait qu'écouter. Des tas de choses vont être posées comme ça, et je vous dis, ça pose la question de comment fonctionne le télétravail, mais comment fonctionne le travail qui est en face à face. Mais derrière toutes ces questions pratiques, je crois qu'il y a deux questions fondamentales qu'il faut approfondir, réfléchir, et qui devront structurer les réponses. La première, c'est celle de la confiance. Une entreprise, comme toute collectivité humaine, ça fonctionne avec de la confiance. Et pour le télétravail, il y a encore plus besoin de confiance. Or, le lien de confiance entre les salariés et leur entreprise, c'est plutôt émoussé ces dernières années. Donc ça nous rappelle à l'ordre, le lien de confiance, il est essentiel, il sera essentiel pour les humains. Puis il y a une seconde question, c'est le travail collectif. Une entreprise, c'est pas un cours de bourse, c'est une communauté humaine, c'est des gens qui travaillent ensemble. C'est pas uniquement des tâches bien définies, parcellisées, qu'on met les unes à la suite des autres, et qu'un chef de projet, avec sous sa houlette d'un chef de projet, qui va définir et distribuer les tâches. C'est un peu plus que ça. Si on veut de la créativité et de l'innovation, il faut de l'intelligence collective. Et là, forcément, le télétravail à lui seul, c'est lui. Quelle est la conclusion de ces propos? La conclusion, c'est qu'il faut, je ne crois pas qu'il faille opposer télétravail et présentiel, plutôt qu'encore une fois, les deux tiers des salariés ne sont pas concernés. Mais même pour le tiers concerné, il faut plutôt penser, je crois, une articulation entre les d'inventer un mix et de se poser la question, telle tâche, ça c'est quand même mieux en face à face. Telle tâche, ça peut très bien se faire à distance, à voir en fonction de la géographie, des souhaits, des organisations. Donc se reposer des questions assez fondamentales sur l'organisation de l'entreprise, parce qu'on parle présentiel, télétravail, mais il y a aussi du temps chez les clients, mais il y a aussi des séminaires, mais il y a aussi des formations. Donc il y a un cocktail spécifique à chaque entreprise, à chaque métier, peut-être à chaque personne. Je pense que les questions qui sont posées, pour faire un parallèle, c'est comme quand il y a eu le passage de 35 heures en France, ça a été l'occasion de grands progrès en matière d'organisation du travail. Les futures négociations sur le travail, elles devront balayer très large, parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'entreprise. Il y a d'ailleurs des questions sociétales. On peut juste les citer. Comment mieux articuler les temps personnels et les temps de travail?
Yves Barou, avec nous par téléphone, donc vous disiez bien, vous montrez bien qu'il y a du télétravail, puis il y a le présentiel, le débat entre les deux, beaucoup de questions de pourcentage finalement, ça dépend aussi des salariés, ça dépend des postes, ça dépend des branches, ça dépend des entreprises, et c'est un débat qui va durer sans doute pour voir comment toutes ces cette articulation entre le télétravail et le présentiel vont se faire dans les mois et sans doute les années à venir. Vous évoquiez, Yves Barou, tout à l'heure les problèmes de connexion qu'on a parfois quand on fait du télétravail, on a du mal à vous entendre à cause de la liaison. On vous reprend tout à l'heure pour deux autres sujets. On parlera de formation continue et également de la situation du marché de l'emploi. Le temps de revenir sur une connexion un petit peu meilleure. On va passer au sujet de la politique culturelle.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Alors dans les mêmes questions de culture et éducation et avec les conséquences de l'épidémie de coronavirus, nous sommes avec Zoé Sfez de France Culture qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Alors hier soir le Festival de Cannes s'est terminé et la Palme d'Or a été attribuée à... Voilà ce dont on aurait dû parler ce dimanche. C'est une épidémie très très antipathique, n'était pas passée par là. Un Festival de Cannes ou Esfèze qui a tenté, bien imparfaitement, de se renouveler.
Oui, en tout cas d'exister, parce que Cannes nous a manqué, vous l'avez dit. Il a manqué plus précisément, plus encore qu'à nous, à tous les professionnels du cinéma. Et il convenait d'une certaine manière, ce dimanche peut-être, de refaire le film. Et ça a été un film quand même relativement flou, une espèce de fondu enchaîné qui finalement n'est toujours pas terminé. Alors petite chronologie de cette édition 2020 du Festival de Cannes. Morné finalement, puisque le mot annulation, Thierry Frémaux l'a redit sur notre antenne chez Olivia Gesbert cette semaine du cinéma sur France Culture, eh bien ce mot annulation, il n'a jamais été prononcé. Je vous rappelle qu'après l'annonce du confinement, mi-mars, le festival confirmait sa conférence de presse qui était prévue le 16 avril, comme si de rien n'était finalement. Puis il y a eu l'annonce d'un report du 20 au 23 juin ou alors au 2 juillet pour finalement attendre la rentrée 2020. Et puis finalement, c'est l'annonce, début avril, que le marché du film, alors l'événement le moins glamour du festival, mais bien le plus crucial, se tiendra bien du 22 au 26 juin, de manière dématérialisée. Alors, tout ça a eu lieu sous la pression des professionnels, notamment américains. Mais alors, qu'allait-il advenir des films sélectionnés, ces films qui se pressent, qui se transforment, hein, on le sait, normalement jusqu'au tout dernier moment. Alors la question se posait finalement d'autant plus cette année qu'en 2019, l'année dernière, après avoir tourné le dos à Netflix de manière assez spectaculaire, après avoir été taxé par une partie du métier de manque de réalisme, eh bien Cannes avait réussi à donner le là, montrer qu'il donnait bien le là du cinéma mondial, avec notamment une Palme d'Or, Parasite, qui a été un succès public phénoménal dans le monde entier. Pas question donc d'annuler 2020, disait Thierry Frémaux. Alors assez vite, on a une association entre Cannes et le Festival de Venise, qui se tient en septembre, qui a été évoquée, mais aussitôt démentie par le président de la Mostra. Et puis finalement, Thierry Frémaux choisit de nous dire qu'il va mettre en valeur la création, les films sélectionnés par un label Cannes 2020 qui va accompagner tous les films retenus par le comité de sélection. Alors Cannes 2020 ne sera donc pas un festival, mais c'est un millésime. Alors la question s'est posée et elle se pose toujours, où les verra-t-on ces films? Est-ce qu'on les verra en salle? Alors assez vite, on a une forme de réponse qui émane cette fois des producteurs des films qui étaient parmi les plus attendus, Benedetta de Paul Verhoeven, Genoux de Nadav Lapid ou encore le dernier Bruno Dumont, qui annonce ses producteurs eh bien, que les films ne sortiront pas avant 2021. On comprend en creux d'ailleurs que les hésitations de la direction du festival les a mis un peu en porte-à-faux. Impossible d'aller candidater à Venise puisque vous étiez engagé à Cannes. Ce millésime, donc, il reste donc d'être un peu bouchonné, si on file la métaphore, quand on finira par déguster les vins. Alors cette semaine, dans un entretien au Figaro, Pierre Lescure précise que la présentation de ces films, donc les films choisis à Cannes, se fera, je cite, dans des salles réservées, dans d'autres festivals, à Venise, à Toronto. Le film de Nanni Moretti ou celui de Wes Anderson serait déjà certain d'y participer. Une chose est sûre, en revanche, Thierry Frémaux, le délégué général, a refusé que le festival ait lieu en ligne. Et ça, d'une certaine manière, Frédéric, on peut le regretter. À l'heure où Netflix diffuse les films de Jacques Demy, quasiment l'intégralité de la filmographie de François Truffaut, David Lynch, le festival aurait peut-être eu, me semble-t-il, une carte à jouer en faisant peut-être télétravailler les critiques. Accréditer les critiques, c'était pas, peut-être pas si compliqué. On vient de parler de télétravail. Alors certes, on sacrifiait la salle, mais on gagnait peut-être une proximité inédite avec un public cinéphile qui était plus à l'affût que jamais. Cela aurait pu permettre à minima de créer un vrai désir pour ces films, voire, on peut peut-être rêver de réussir à modifier finalement l'ADN de Cannes en mettant en valeur son amour d'un cinéma de festival que de toute façon aucune plateforme ne saura jamais aimer, mieux mettre en valeur que Cannes le fait. Alors on se contentera du festival en ligne We Are One. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est le dernier enfant du Covid. Il va débuter le 29 mai pour 10 jours et il présentera sur YouTube les films présentés les années précédentes à Cannes, à Venise, à Berlin ou encore au festival de Tribeca. C'est ce festival qui est à l'initiative de cette initiative. On pourra soutenir les institutions en faisant un don. C'est donc un festival gratuit, grand public. C'est pas Cannes, mais c'est déjà pas mal.
Autre sujet Zoé Sfez, ce soir, les libraires, je l'ai dit, les éditeurs et les écrivains se mobilisent ce week-end par des appels à l'aide au président de la République. La musique l'a fait aussi, on recevait Jean-Noël Tron dimanche dernier, le cinéma également, mais on entend assez peu ou pas les galeries d'art et le secteur de l'art contemporain. Quelles sont les singularités de la crise qu'ils traversent, eux, Zoé Sfez, et pourquoi un tel silence ?
Eh bien, tout simplement parce que le secteur, traditionnellement, a du mal à communiquer sur ses difficultés. Parce qu'il y a cette peur qu'en avouant ses faiblesses, eh bien, on alimente la crise et que plus on se dit faible, plus le marché va avoir tendance à s'effondrer. On le sait, le marché de l'art repose aussi beaucoup sur une mythologie. Alors, les difficultés, elles se présentent aussi bien pour les galeries que pour les maisons de vente. Les galeries, elles ont un comité professionnel des galeries d'art qui a annoncé dans un communiqué il y a 10 jours qu'il fallait s'inquiéter de la disparition des petites structures dans les 12 mois à venir et qui rappelle eh bien, que dans l'histoire, la crise du marché de l'art en 91 après la guerre du Golfe, eh bien, a vu 46% des galeries fermées entre 90 et 94, avec une reprise amorcée seulement à partir de 95, donc 4 ans plus tard. Même conséquence à peu près après la crise financière de 2008. À l'époque, le nombre de ventes avait chuté de 75%. le système des foires d'art est-il encore acceptable? Ça, c'est la vraie question que tout le monde se pose, notamment le critique d'art Philippe Dagen, qui a publié une chronique dans Le Monde. Pourquoi? Eh bien, parce que la crise du Covid, elle met en valeur une autre crise, la crise qu'on appelle la fair fatigue, la fatigue des foires en anglais. Car, vous le savez, aujourd'hui, les foires d'art contemporain sont très nombreuses. Il y en a, on va dire, 13 ou 14, très importantes par an, immanquables. Et 42% des galeries françaises participent à ces foires dans le monde entier. Alors, toutes les grandes foires du printemps qui devaient avoir lieu ou qui étaient censées avoir lieu juste à la fin du déconfinement ont été annulées. C'est la foire de Bâle qui a été reportée de juin à septembre, le PAD de Paris qui est reporté à octobre. Le tout à quelques jours de foires d'automne, le Frise de Londres et la FIAC de Paris, qui elles pour le moment sont maintenues. Il y a un vrai risque d'autodestruction de ces foires et elles sont pourtant aujourd'hui devenues capitales. Pour participer à ces événements, les galeries elles versent des acomptes pour réserver leurs stands, des acomptes qui représentent près de 40% de leur trésorerie annuelle pour la plupart d'entre elles. Eh bien, ces acomptes, on l'a appris, ne seront pas remboursés par les organisateurs des foires, mais transformés en avaloirs valables pour les éditions de 2021. Alors, ça pose évidemment un gros problème de trésorerie qui, dans l'immédiat, va fragiliser toute une série de professionnels. Mais en plus, la dépendance des galeries aux foires est telle qu'elles ont maintenant, au bout de 10 ans de ce système à son plus haut, et bien les galeries, elles ont perdu le contact direct avec leurs clients. Et quand bien même elles auraient encore ce lien privilégié, et bien c'est très difficile aujourd'hui pour les galeries de créer l'excitation, l'attente suscitée par la foire, de vendre une œuvre sans que le client l'ait vue. Et par ailleurs, les prix de plus en plus concurrentiels ont créé un espèce de système à deux vitesses. En fait, en France aujourd'hui, il y a les galeries qui peuvent se permettre de participer aux foires, et puis toutes les autres. Tout ceci a contribué en fait à diviser la profession, à fragiliser sa capacité à penser ensemble en temps de crise. Et ce sont évidemment les plus petites galeries qui risquent, comme toujours, de trinquer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gros poissons, c'est-à-dire les maisons de vente, ne sont pas épargnés par cette crise du Covid. Et alors, loin de là, elles prennent la crise en pleine face. Et là encore, bah, on souffre, mais on souffre en silence. Alors Sotheby's et Christie's ne répondent plus aux questions de la presse depuis plusieurs semaines. Pourtant, on le sait, le produit des ventes aux enchères a chuté de 76% en mars et près de 80% en avril. C'est Artnet qui nous donne ces chiffres. C'est à peu près les mêmes chiffres qu'après la crise de 2009. Les deux groupes souffrent donc, et pas qu'un peu, puisque Sotheby's a donc licencié 200 personnes. C'est 12% de ses effectifs entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. C'est quand même relativement énorme. En même temps, elle occupe le terrain médiatique. Elle a mené une vente aux enchères avec Google pour les plus vulnérables, puis une autre au profit des soignants en mai. Même chose du côté de Drouot, qui se contente de communiquer sur les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour permettre la réouverture des salles de vente. Là, on le sait, en fait, est quand même un secteur en danger, puisque c'est le dernier bien que l'on rachète, une fois qu'on a pu tout racheter après une crise. Et en même temps, c'est le grand système des crises. L'art, on le sait, on pourrait l'imaginer, dans quelques mois, après avoir littéralement chuté, pourrait redevenir à nouveau une valeur refuge.
Merci Zoé Sfez. On a d'ailleurs évoqué dans cette émission ce qu'on appelle le phénomène un peu logo, c'est-à-dire ces festivals, ces foires qui peuvent être désormais à la fois locales avec les gens qui sont dans le pays, qui vont venir sur place, et puis les globaux qui eux resteront online, donc une espèce de nouveau modèle logo, donc local outside et global online, qui permet aux différentes festivals, aux différents foires, donc d'avoir à la fois un public qui est fidèle et qui reste sur place sans avoir les globaux qui peut-être ne peuvent pas venir ou ont des difficultés à le faire. Nous étions tout à l'heure avec Yves Barou, président du cercle des DRH européens, ancien DRH de Thales, ancien président de l'AFPA. On a retrouvé une liaison, je pense, meilleure. Rebonsoir à Yves Barou. Alors, on avait trois sujets ce soir. On avait parlé tout à l'heure du télétravail. Parlons rapidement de la formation continue, période de confinement, mais aussi de période actuelle où on est parfois plus chez soi qu'auparavant. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que ça nous donne du temps pour être formé? Et dans ce cas-là, quelle solution pour les personnes concernées? Est-ce que c'est aux salariés à se débrouiller, à l'entreprise à le payer? Comment ça se passe en cas, par exemple, de chômage partiel?
Vous avez raison, le chômage partiel, ou moi je préférais dire l'activité partielle, ou le temps de travail réduit, et la formation, ben ça fait bon ménage. Ça fait bon ménage, et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises dans le passé, quand ils avaient une période de sous-activité, ont organisé des grands programmes de formation, ont profité de la sous-activité pour investir dans la formation. Alors, aujourd'hui, pour la formation, il faut bien distinguer entre les formations longues, qualifiantes, celles où on apprend un métier, celles où on se reconvertit, où là, C'est comme le télétravail, il faut un mix entre le présentiel dans l'entreprise, les sessions de formation, le travail en ligne, mais aussi toutes les formations courtes, qui sont plutôt d'adaptation, de perfectionnement. Et pour ces formations courtes, il y a des tas d'opportunités aujourd'hui pour quelqu'un qui a du temps. Il y a des formations gratuites en ligne. Pour celles qui ne sont pas gratuites, beaucoup d'actifs ont désormais, et c'est un grand acquis des partenaires sociaux, un compte personnel de formation, donc ils peuvent se financer 20 heures, 30 heures de formation, et c'est à leur main. Et c'est à leur main. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de solutions qu'il y en avait il y a quelques années pour profiter de cette période. Au fond, ce qu'il faut se redire, c'est que apprendre, c'est une activité permanente. Il n'y a pas de limite. On n'apprend pas au début de sa vie, puis on s'arrête. C'est une activité permanente tout au long de la vie. Et puis avoir du temps libre, c'est toujours une opportunité, une occasion d'apprendre. Donc oui, les deux font bon ménage.
Et puis alors, le troisième sujet qu'on voulait traiter ce soir, pardon pour la liaison, mais on est toujours dans des périodes où on ne peut pas avoir les invités en studio. Nous vous prions de nous en excuser. On est avec Yves Barou par liaison téléphonique. Comment est-ce que vous analysez, Yves Barou, la période actuelle avec le choix, par exemple, fait d'un chômage partiel massif qui coûte cher, il faut bien le dire, à la collectivité et à Pôle emploi, mais qui bénéficie aux salariés plutôt bien traités, parfois au détriment, le cas échéant, de l'emploi plus général, et sur une question un peu générale, comment est-ce que vous voyez les conséquences en termes de droit du travail et du travail de cette crise ?
Je crois que la grande question aujourd'hui, et moi je suis étonné qu'on ne la pose pas plus, c'est ce qui est devant nous à la rentrée, qui est déjà là mais qui sera devant nous massivement à la rentrée, c'est des menaces considérables sur l'emploi et un risque de montée violente, brutale, rapide, qu'on n'a jamais connue du chômage. Alors, bien sûr, il y a des entreprises qui ont accumulé du retard et qui vont devoir, durant l'été, travailler plus pour satisfaire des clients. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que, macroéconomiquement, beaucoup d'entreprises vont devoir faire face à une sous-activité, récession, pendant un certain nombre de mois. Alors, disons 12 mois pour fixer les idées, mais je dis 12 mois parce que je n'en sais rien comme les autres, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, la question, c'est comment s'organiser pour faire face à une sous-activité durable, enfin durable en mois. Alors, je crois que pour faire face à cela, il n'y a que deux solutions. La première solution, c'est de licencier, d'organiser des plans sociaux, de s'alléger au plus vite. C'est la réponse américaine. Vous savez que les États-Unis prévoient un taux de chômage de 20% à l'été. Bien sûr, ça casse les collectifs du travail. Bien sûr, ça peut poser des problèmes après. Il y a des dégâts sociaux. Mais enfin, ça va vite. Et puis, il y a une autre réponse, plus conforme au modèle social européen, qu'en tout cas l'Allemagne a su pratiquer plusieurs fois avec bonheur, en 2008 en particulier, c'est une réponse qui passe l'emploi au premier plan. D'une certaine manière, dans le premier modèle, on sert de l'emploi comme variable d'ajustement, dans le deuxième modèle, on se sert du temps de travail comme ajustement. Alors la question, c'est comment la France va se situer entre ces deux modèles. La France est souvent un peu hésitante entre ces deux modèles. Alors, il faut faire un petit retour en arrière, se dire, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous avez raison, il y a un chômage partiel qui a été mis en place. Il concerne beaucoup de salariés. Il est fait sur deniers publics. Et il faut le dire, il est généreux. Il est généreux puisque les personnes qui sont en chômage partiel touchent entre 83 et 100% du net précédent, donc disons en moyenne une sorte de 90%. C'est plus généreux qu'ailleurs, plus généreux qu'en Allemagne où c'est 70% plus des compléments d'entreprise, et c'est beaucoup plus généreux qu'au Royaume-Uni, même si pour l'instant c'est 80% avec un plafond, ça va passer à 60% au 1er juillet et ça s'arrêtera en octobre. Donc la France a un système un peu plus généreux, financé sur deniers publics, donc on a acheté du temps, on a repoussé des choix difficiles, mais on voit bien que on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, si ça doit durer pour certains secteurs 12 mois, on ne peut pas avoir des millions de salariés financés sur deniers publics pendant 12 mois. Alors, on est ramené à ce choix, qui est un choix terrible. Comment faire ? Tentation de licencier, de faire des économies immédiates, avec toutes les conséquences que ça a derrière, ou bien jouer, mais c'est un peu plus complexe, sur la durée du travail, mais ça suppose que tout le monde fasse un peu sa part d'effort. L'entreprise, parce qu'il faut se réorganiser, le salarié, parce qu'il faut accepter un salaire moindre, provisoire, l'État qui doit pouvoir aider. Moi, je suis étonné en ce moment de voir un certain nombre de commentaires sur le pouvoir d'achat. Ben, soyons clairs, mettre en avant le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est mettre en avant le pouvoir d'achat de ceux qui ont un travail et de ceux qui en auront encore au mois de novembre. C'est oublier totalement ceux qui vont perdre leur emploi à l'automne, c'est oublier totalement les jeunes qui ne vont pas pouvoir rentrer sur le marché du travail. C'est d'une certaine manière se préoccuper que d'une partie des actifs au détriment du pouvoir d'achat de la totalité des actifs. Alors, je disais tout à l'heure que les fenêtres étaient ouvertes. Alors, ben, soyons imaginatifs. C'est l'occasion ou jamais. Moi, pourquoi pas imaginer, alors bien sûr, après, ça devrait être modulé par entreprise, par secteur, mais pourquoi pas imaginer, pendant cette période, moi je chiffre à 12 mois, mais il faudra le piloter, pourquoi pas imaginer de passer une semaine de 4 jours, dont, pour ceux pour lesquels c'est possible, peut-être une ou deux journées de télétravail, bien sûr, avec un salaire réduit, j'ai dit qu'il était de 90% pour le chômage partiel, il faudrait qu'il soit peut-être à 85-90%. Mais si c'est le prix à payer pour passer sans détruire des entreprises, sans détruire des collectifs de travail, quelques mois difficiles, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et ça vaut le coup de se poser la question, parce qu'autrement, la brutalité des licenciements va être violente. Alors, c'est un choix terrible. Moi, ce que j'espère, c'est que, comme en d'autres moments, le dialogue social permettra de trouver des accords pour passer cette période difficile, des accords réversibles, des accords qui se poseront toutes les questions. Il y en a une, par exemple, qu'il faut forcément se poser en France, c'est que c'est une différence entre la France et l'Allemagne, c'est que les grandes entreprises allemandes ont toujours eu, dans toutes les crises, le souci de leurs sous-traitants, considérant que c'était leur partenaire durable, que c'était leur écosystème. En France, parfois, il y a eu la tentation de repousser les problèmes sur les sous-traitants. Je pense que dans cette période, les entreprises ont une forme de responsabilité sociale qui est de se soucier des entreprises qui travaillent pour elles. Donc de trouver des solutions qui ne repoussent pas les problèmes vers ces entreprises. Donc je crois que la grande question qui va se poser en France à la rentrée, on sait très bien ce que les États-Unis vont faire, on voit très bien ce que les Allemands vont faire, on ne sait pas ce que la France va faire. Est-ce qu'elle va accepter une montée violente du chômage avec des plans de licenciement dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'entreprises, ou trouver, par des discussions difficiles, des solutions provisoires, j'insiste sur le mot provisoire, qui permettront de passer le cap difficile sans avoir fait trop de casse au passage, quoi. Donc c'est vraiment la différence entre les deux modèles, mais là, on y est, et il y a beaucoup de débats actuellement, mais je crois que c'est la grande question de la rentrée.
Merci.
Il faut vraiment se la poser.
Merci d'avoir posé ces questions et proposé un certain nombre de pistes. Yves Barou, président du Cercle des DRH européens. La liaison était pas très bonne, mais le propos était passionnant. Ancien DRH de Thalès et ancien président de l'AFPA. Tout ça en direct sur France Culture. Nous sommes maintenant avec Nicolas Prinsen. Bonsoir Nicolas.
Ancien
chroniqueur de cette émission avec une liaison bien meilleure via une application spéciale, ancien conseiller, je rappelle pour la forme, ancien conseiller numérique du président de la République Nicolas Sarkozy. Vous avez fondé depuis plusieurs années une application qui s'appelle Gloz en français, qui incite et facilite, je pourrais dire, la lecture. Alors durant le confinement, ça nous permet de parler maintenant d'un deuxième sujet, d'un nouveau sujet, à savoir la question de l'éducation et des technologies de l'éducation pendant le confinement et désormais après. Durant le confinement, on a observé que des applications comme la vôtre avaient eu un succès considérable. La crise comme accélérateur pour les EdTech en général, comme on appelle les technologies éducatives en ligne, c'est une hypothèse que vous défendriez ?
Oui, absolument. En tout cas, c'est une hypothèse qui se vérifie sur le terrain, puisque depuis 2 mois, on voit une accélération considérable de l'usage de nombreux services d'éducation numérique. Vous citez en l'occurrence Gloz Education, une application de lecture numérique qui distribue des livres numériques et les rend collaboratifs, enrichis et permet aux élèves de les lire où ils veulent, quand ils veulent, notamment de chez eux, sur l'ordinateur ou sur leur smartphone. Il est certain que, en gros, la crise du Covid dans le domaine éducatif, ça a été du jour au lendemain faire l'école, sans l'établissement. Et donc, le numérique s'est imposé naturellement pour faire de la formation à distance dans des contextes pour lesquels on était plus ou moins préparé. et en tout cas dans lequel il y a eu un appel d'air très fort pour des solutions qui permettaient, par exemple, de rendre disponibles des ressources à distance. C'est le cas des livres numériques que nous avons rendus disponibles par dizaines de milliers, puisqu'avec la fermeture non seulement des CDI dans les établissements scolaires, mais aussi des bibliothèques et des librairies, bah, tout simplement difficile d'accéder aux livres, mais aussi des applications de communication et de collaboration. On a vu une explosion, naturellement, de tous les services qui proposent la communication prof-élève, mais aussi parents-professeurs. Évidemment, les gros du secteur, aussi les ENT, les espaces numériques de travail, qui sont les outils achetés en général par les régions, et enfin des applications mobiles, par exemple comme Classroom, dont il a été question récemment et qui également a vu une évolution de ses usages.
Alors on a observé un peu pendant ce confinement, vous le disiez, hein, tout le monde, hein, les élèves, les enseignants, les professeurs ont basculé en ligne durant ce confinement un peu et beaucoup continue d'ailleurs, dans une sorte de joyeux foutoir technologique qui n'avait pas été anticipé. L'éducation nationale par exemple a dit à ses enseignants, n'utilisez pas Zoom, ni Google Meet, ni Microsoft Teams, ni Skype parce que c'est américain, mais en fait il n'y avait pas tellement d'autres possibilités, donc les profs finalement réutilisaient ce qu'ils avaient, parfois même les jeux vidéo pour parler à leurs élèves. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement ?
Alors déjà, il y a énormément d'outils vraiment centralisés du ministère de l'Éducation nationale qui ont été mis en place. Donc je conteste un petit peu cette hypothèse. Le vaisseau amiral, ça a été
le CNED
national, qui est le CNED, le Centre national d'éducation à distance, qui a fait SAMU numérique il y a déjà quelque temps et qui a pu proposer en urgence un service, Ma classe à la maison, qui a été une brique un petit peu fondatrice de ce que pouvait proposer la France en matière d'éducation numérique, entre guillemets, souveraine, et au-dessus, autour, tout un tas de services. Il est vrai, cependant, que dans le contexte d'urgence, l'information a parfois été difficile à circuler jusqu'au terrain, puisque le professeur, naturellement, du jour au lendemain, doit aussi chercher ses solutions avant de savoir ce qui lui est recommandé et que la chaîne d'information fonctionne pleinement. Et bien souvent, en effet, ils ont dû se précipiter sur les outils qu'ils ont pu trouver. Et parmi les outils qu'on peut trouver, il peut y avoir des outils extrêmement normés, recommandés par l'établissement ou recommandés par l'académie. Et puis, il peut y avoir des outils qui s'imposent un petit peu d'eux-mêmes. Le meilleur exemple que chacun connaît, c'est Zoom, qui est un service de visioconférence qui s'est imposé un petit peu partout. Et le problème, surtout, c'est pas tellement une question d'inexistence de services publics dans le numérique éducatif. Je pense qu'on est plutôt un des pays les mieux préparés à ce type de contexte et il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ce point. C'est surtout que quand on fait du numérique, soit ça marche, soit ça marche pas. Et donc, quand il y a une demande extrêmement forte, il faut tenir, il faut avoir un service de qualité extrêmement simple. Et c'est vrai qu'en la matière, des acteurs spécialisés comme notamment les GAFA, mais en l'occurrence Zoom, qui n'est pas un GAFA, ont naturellement bien fonctionné parce que ça marche du premier coup et du coup les profs s'inscrivent. Mais ne pas sous-estimer déjà la valeur entre guillemets du patrimoine numérique que nous avons avec toutes les antennes et les services liés au ministère de l'Éducation nationale, car ils existent aussi bien au niveau national qu'au niveau régional d'ailleurs, et peuvent en grande partie faire le travail, même si il y a bien des choses à apprendre de ces deux derniers mois.
Alors pour terminer, Nicolas Prinsen, j'évoquais avec un peu d'ironie ce joyeux foutoir technologique, mais ça c'était pendant le confinement. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la tenue d'états généraux du numérique éducatif pour l'automne. Est-ce que ça peut être une occasion pour refonder nos outils et réfléchir à un plan numérique à la fois souverain mais aussi efficace ?
Absolument, je crois que le moment est venu et l'actualité l'a clairement montré. C'est le moment de vraiment mettre au premier rang des préoccupations la construction d'un éducatif numérique en effet efficace et souverain. Alors déjà, il faut dire que cette souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise de nos outils nationaux, parce que l'éducation nationale, évidemment, c'est stratégique, elle est possible. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres industries où la partie du numérique est quasiment jouée, je veux dire, aujourd'hui, contester Google dans la recherche, par exemple, ça va être difficile. Dans le numérique éducatif, c'est pas du tout le cas. Il y a encore énormément de choses à faire pour construire les meilleurs outils et proposer les meilleures offres au monde, je le crois sincèrement. Et il y a quelques pays, naturellement au premier rang desquels les États-Unis, mais surtout la Chine, qui ont cette vocation et cette ambition de construire des acteurs du numérique éducatif qui soient des champions nationaux pour devenir des titans mondiaux. Pour ça, on a quelques idées, acteurs du numérique éducatif, qu'on discute beaucoup au sein de la FINEF, d'EdTech, et puis de manière très directe avec le ministère. Naturellement, premièrement, il faut parler
écouter, former les professeurs. Il n'y a pas de numérique éducatif qui ne parte pas des besoins du terrain et qui soit ensuite utilisé sur le terrain et fait pour ça. Deuxièmement, il faut une vraie volonté de construire des champions nationaux. Et là-dessus, si vous voulez, on a une vision de l'éducation en France comme quelque chose d'extrêmement centralisé. Et c'est vrai du point de vue des programmes, mais c'est pas forcément vrai du point de vue des moyens et des solutions. Et par exemple, le numérique éducatif est très largement décentralisé parce qu'il est financé notamment par les régions et les départements. Ce qui est super jusqu'à un certain point, qui aujourd'hui peut poser des problèmes dans la sélection et la création de vrais champions nationaux. Et puis, dans notre cas, comme souvent en France, il y a un dernier obstacle qui doit être levé. C'est un obstacle un peu philosophique ou historique de méfiance par rapport aux entreprises et à ce qu'elles peuvent apporter dans un cadre comme celui-ci, qui se lie dans ce cas aussi à une forme de timidité à l'égard du numérique que connaissent nombre de professeurs, comme de citoyens français d'ailleurs, comme les autres. C'est difficile d'adopter le numérique, surtout dans un contexte d'urgence, mais en créant un climat de confiance et un dialogue très direct entre tous ces acteurs, ce que par exemple dans mon entreprise on fait tous les jours, parce qu'on parle à des dizaines de profs qui nous expliquent leurs besoins et qui sont très contents qu'on vienne les aider, je suis persuadé qu'on peut construire des champions nationaux avec un état d'esprit non seulement souverain, mais conquérant.
Nicolas Prinsen, qui dirige et qui a fondé Gloz et Gloz Éducation, notamment, qui sont des applications qui incitent et facilitent à la lecture. Puis on a appris ces derniers jours que les universités américaines, notamment en Californie, mais aussi des universités anglaises comme Cambridge ou allemandes ou suisses, ont annoncé déjà que les cours en ligne seront maintenus jusqu'à la fin 2020. Donc on aura peut-être l'occasion de reparler de ces cours en ligne et de ces EdTech, c'est-à-dire ces technologies de l'éducation et notamment de leur version française. Direct 19h07 sur France Culture, on écoute Mr. Oiseau. Ça s'appelle aussi, on l'appelle aussi Monsieur Oiseau. Last night, did you kill my dog? On fête ce printemps en effet l'anniversaire du label discographique F Communication, un plus connu sous le nom de F-Com, qui célèbre ses 25 ans. Fondé par Eric Morand et le DJ bien connu Laurent Garnier, F-Com a permis à la musique électro-française de s'importer dans le monde entier. Le label avec des artistes comme Scan X, on se souvient du célèbre morceau Blinding Waves, Saint-Germain avec l'album Boulevard, je pense aussi à Monsieur Oiseau justement, Flatbeat ou encore sa présence dans le film Stick Rubber ou Le Dame. Il était garagiste d'ailleurs de Laurent Garnier, Monsieur Oiseau sous le nom de Quentin Dupiec, c'est son vrai nom, et tout à coup le garagiste s'est mis à faire de la musique. Bref, c'est ce qui a donné naissance à l'électro, son français, son sillon auprès du grand public n'a fait que s'accroître. On a donné un nom depuis à ce mouvement, la French Touch, mais c'est F-Com qui en a été à l'origine, avec un peu plus tard le label Headbanger de Pedro Winter. Cet anniversaire, cette semaine, est l'occasion de nombreuses rééditions, notamment de 25 EP remasterisés, avec autant d'années à la gloire, comme autant d'années à la gloire de la musique électro.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Dernière séquence de Soft Power ce soir, on parle industrie culturelle et médias. Dans un instant, on sera avec Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense. On verra comment le ministère des Armées s'intéresse aux industries culturelles et innove. Entre-temps, on est avec Sandrine Cassini, journaliste au journal Le Monde. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Frédéric.
Alors, plusieurs sujets avec vous, quoique rapidement. Médias audiovisuels d'abord, Sandrine. On avait pu croire que du fait des bonnes audiences de la radio et de la télévision, ce secteur sortirait plutôt à peu près correctement de la crise sanitaire. Mais c'était oublié, évidemment, le problème des recettes publicitaires, avec des annonces qui ont eu lieu sur le groupe Altice qui a annoncé le lancement d'un plan d'économie massif dans ses médias, c'est-à-dire BFM TV, mais aussi RMC.
Oui, tout à fait. Altice a donné une sorte de coup d'envoi aux plans sociaux qui pourraient intervenir dans les médias ces prochaines semaines. Comme vous le disiez, c'est un peu le paradoxe de cette crise, c'est-à-dire qu'en même temps, les audiences n'ont jamais été aussi bonnes. Il est vrai dans les télés, dans les radios, mais aussi dans la presse. Et pourtant, elles sont en train de faire toutes des économies. Donc là, le 28 avril dernier, les radios privées, Europe 1, RTL Énergie, ont même écrit au Premier ministre pour lui demander à ce que la publicité soit réservée aux radios plus privées et que Radio France se passe de la manne qu'elle engrange chaque année de manière provisoire le temps que la situation se rétablisse. Avant cela, TF1 M6 avait déjà annoncé des coupes sévères dans les programmes, mais c'est vrai qu'Altice est le premier à envisager des licenciements. Dans un premier temps, il va mettre en place un plan de départ volontaire. Pour l'instant, il ne veut pas dire combien de personnes cela va concerner. Mais on sait déjà que s'il n'y a pas suffisamment de candidats, il pourrait mettre en place des licenciements secs. Donc, alors, c'est vrai que le Covid est pour beaucoup dans ce plan d'économie qui a accéléré. Mais en réalité, il était déjà dans les tuyaux chez Altice. Alain Veil, qui est le fondateur de Next Radio et donc de ce groupe qu'il a revendu à Altice il y a 4 ans, disait lui-même qu'on était arrivé à une sorte de seuil, à une sorte d'épuisement du modèle. D'ailleurs, le chiffre d'affaires média, c'est-à-dire de la publicité de ce groupe, a même reculé de 2,1% l'année dernière à 452 millions d'euros. Donc, dès le début de l'année, avant que le Covid ne frappe, le groupe a mis en place un certain nombre d'économies. Il a commencé par écarter les grands dirigeants de Next Radio. Alain Veil a dit, par exemple, à son directeur général, mais aussi à d'autres dirigeants qui étaient là depuis longtemps, qu'ils devaient quitter le dos le groupe parce que toutes les fonctions transverses allaient être fusionnées avec SFR qui est le navire amiral du groupe. Surtout, la branche qui va être concernée, c'est RMC Sport. RMC Sport, c'était le gros pari d'Altice, rappelons-le, qui a acheté pour 1 milliard d'euros les droits de la Champions League. Ils sont en train, et alors, ces droits, ils les ont perdus, ils vont passer aux côtés de Canal+ d'ici un an. Mais évidemment, d'ici là, il faut se préparer. Que faire de cette branche qui est très déficitaire? Donc là, la première mesure qui a été prise, c'est de fermer RMC Sport News, qui est une chaîne d'information gratuite, ça s'arrête le 2 juin, mais le groupe a déjà dit qu'il allait mettre à l'arrêt l'athlétisme, l'équitation et le tennis. Donc ce pari dans la télévision payante pourrait bien s'arrêter définitivement d'ici un an. En revanche, BFM atteint des records d'audience. C'est vrai que ça a été porté par notamment les interventions du Premier ministre, d'Olivier Véran, etc. Elle a quasi pas doublé, mais a augmenté au moins de 50%. Ses audiences atteint 3,4% de part de marché. C'est donc un record par rapport à l'année dernière. Devrait être à peu près préservé de ces mesures d'économie.
Voilà. Pour ce que vous citiez, à savoir l'appel à l'aide des radios privées qui demandent 180 stations, qui demandent la suspension temporaire de la publicité chez nous, sur le service public de Radio France. C'est un appel lancé notamment, publié ce matin dans le JDD, dans le monde, dans le JDD de ce dimanche. Alors, autre sujet, Sandrine Cassini, média encore, le problème récurrent de la presse, alors ce coup-ci papier, avec le problème, disons, structurel de Presstalis, le prestataire qui distribue les médias et notamment dans les kiosques, du fait de la baisse des ventes précisément en kiosque.
Oui, alors là aussi, le Covid, en tout cas la pandémie, a agi comme un accélérateur qui a conduit Presstalis, qui est le premier distributeur de la presse française avec 75% du marché, vers le redressement judiciaire. C'est l'actualité qui a animé ces dernières semaines le petit monde des journaux, parce que c'est assez crucial, même si on passe de plus en plus au numérique. La plupart des journaux continuent de tirer une grande partie de leurs recettes de la vente en kiosque. Donc, vendredi 15 mai, le tribunal de commerce de Paris a décidé de mettre en redressement judiciaire ces messageries de la presse et a annoncé la liquidation des dépositaires, autrement dit des distributeurs de presse en région. Presstalis, c'est quand même 910 salariés, dont un peu plus de 500 en province. À ce jour, donc c'était il y a à peu près 2 semaines, les grèves sont toujours en cours dans les régions où la presse n'est plus distribuée. Alors, si le Covid a accéléré la chute, cela fait des années que Presstalis est en difficulté. C'est issu d'un modèle d'après-guerre. Presstalis porte une structure de coûts assez importante, héritée des conditions salariales octroyées aux ouvriers du livre, mais pas que. Les éditeurs ne sont pas non plus étrangers à cette faillite. La gestion n'a pas toujours été très bonne. Là, ces dernières semaines, on était arrivé à un point de non-retour. Normalement, éditeurs de magazines et les quotidiens, qui sont actionnaires de Presstalis, devaient s'entendre sur un plan de sauvetage. Mais après des mois de discussion, ils n'y sont toujours pas arrivés. Les plus gros éditeurs de magazines, comme Prisma, qui édite National Geographic, Voici et Capital, ou Reworld, avec Gradia, Science et Vie, ne voulaient plus remettre au pot. Du coup, ce sont les quotidiens tout seuls qui ont fait une offre de reprise le 12 mai, sur une toute petite partie de la structure. Pourquoi ? Parce que les quotidiens, à ce stade, ne peuvent absolument pas se passer de la vente en kiosque et ont une distribution très complexe. Car ils doivent être, les journaux doivent partir dans des camions à des heures très compliquées et être distribués dans toute la France. L'État, lui, va accepter de remettre au pot un petit peu à hauteur de 80 millions d'euros. Et le problème dans cette affaire, c'est que ce sont les petits éditeurs indépendants qui trinquent. Car à la faveur de ce redressement judiciaire, beaucoup vont perdre une créance, c'est-à-dire les ventes qui étaient réalisées avant la faillite. En tout, l'ardoise de Presstalis s'élève à 120 millions d'euros. Donc, pour des petits éditeurs, ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros, équivalent de plusieurs mois de chiffre d'affaires. En tout cas, une chose est sûre, quoi qu'il arrive, le problème ne sera pas réglé pour autant. Même si on arrive à restructurer un petit peu Presstalis, la question se reposera dans 2 ou 3 ans, puisque les ventes en kiosque continuent de baisser inexorablement.
Merci infiniment Sandrine Cassini. On voulait aussi parler du conseil de déontologie des journalistes, mais on le fera peut-être la dimanche prochain, puisque c'est on est un peu à court de temps. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct par Skype, Sandrine Cassini du journal Le Monde. On termine cette émission avec Emmanuel Kiva, qui est directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Bonsoir monsieur.
Bonsoir, merci de nous avoir invités.
Alors, je vais vous poser tout simplement une question pour commencer. Pour savoir de quoi s'agit-il ? Une agence de l'innovation de défense, c'est-à-dire au sein du ministère des Armées, du ministère de la Défense ?
Absolument, mais c'est une entité assez nouvelle puisqu'elle a été créée en septembre 2018 par la ministre des Armées, Florence Parly. Et ses grandes missions, finalement, c'est à la fois d'orienter, de conduire toute la politique d'innovation du ministère des Armées, également de pouvoir susciter, voire capter l'innovation hors domaine des militaires qui pourrait être intéressante pour le ministère, et puis surtout la valoriser, la transférer au profit de ceux qui en ont besoin, les utilisateurs, les opérationnels, et déployer sur les différents théâtres. Donc pour être très rapide, vous pouvez nous voir comme une usine à accélérer des projets d'innovation au bénéfice du ministère des Armées. Il y a à peu près une centaine de personnes. L'agence est placée sous la responsabilité du délégué général pour l'armement. Elle comprend à la fois des militaires, à la fois des civils, des ingénieurs de l'armement, des personnels du secrétaire général pour l'administration, avec un budget d'1,3 milliard par an pour l'ensemble de la politique d'innovation et de recherche du ministère.
Alors si on vous a invité ce soir, Emmanuel Kiva, c'est pour nous parler avec le travail donc de cette agence, de l'ensemble de vos activités, notamment en termes d'innovation, ce que vous avez fait pendant l'épidémie de Covid-19. Et puis on reviendra juste après sur la science-fiction qui vous intéresse. Commençons de manière plus globale sur l'innovation. Comment est-ce qu'on peut innover quand on est un ministère comme celui de la Défense, forcément un peu lourd, un peu ancien, un peu comment dire, classique, avec des infrastructures lourdes et des prises de décision complexes. Est-ce qu'on peut faire de la recherche du développement, de l'expérimentation, prendre des risques ?
On ne peut pas prendre, considérer qu'on fait de l'innovation, on ne prend pas de risques. C'est consubstantiel. Si vous échouez pas, c'est que vous n'avez pas essayé. Alors c'est pas de moi, c'est d'Einstein. Mais évidemment, l'innovation n'a pas commencé à exister au sein du ministère avec la création d'agence. Ça fait très longtemps que au sein des armées, au sein de la DGA, on fait de l'innovation, on fait de la recherche, on planifie le temps long. Vous avez entendu parler des grands projets structurants, le système de combat aérien du futur, le porte-avions de nouvelle génération. Et en même temps, il y a des initiatives qui fleurissent au sein du ministère, au sein des armées, ce qui nous amène finalement à avoir plusieurs types de projets qu'il était nécessaire d'animer et de dynamiser. Et donc ces différents types de projets, j'en ai parlé, c'est des projets de recherche. Là, on va se projeter au temps très long, 30 ou 40 ans, pour préparer et envisager les deep tech qui pourraient demain, les technologies qui pourraient demain être utiles pour le monde de la défense. Les projets de technologie de défense, c'est-à-dire préparer les capacités dont on sait qu'on aura besoin pour nos futurs systèmes d'armes, par exemple. Et puis on a aussi de l'innovation qui vient du ministère lui-même, ce qu'on appelle l'innovation participative. C'est des soldats, c'est des officiers, c'est des médecins qui ont des idées et que l'on aide à passer à l'échelle, si vous voulez. On les accompagne pour accélérer le développement de leur projet. Et puis enfin, mais ça c'est un peu plus nouveau, il y a une démocratisation de l'innovation civile, il y a une accélération de l'innovation. Ben, le ministère, c'est pas une forteresse, on veut également en profiter. On veut pouvoir capter dans le monde civil les innovations qui nous semblent intéressantes et pouvoir les adapter pour les besoins des opérationnels.
Alors, prenons précisément Emmanuel Kiva. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Agence de l'innovation de défense au ministère des Armées. Prenons un exemple, l'appel à projet que vous avez lancé mi-mars par rapport au coronavirus. Mmh. De quoi s'agissait-il ?
Ben, c'est un très bon exemple justement de mutualisation de toutes les capacités d'innovation qu'on pouvait trouver. Vous savez qu'il y a eu un plan gouvernemental de lutte contre le Covid et le ministère des Armées, comme tous les autres ministères, s'est mobilisé. Et nous avons décidé au niveau de l'agence de lancer un appel à projet ouvert. Alors il a été lancé très rapidement. On l'a lancé le 19 mars. On l'a clos le 12 avril. Et le but c'était de disposer de propositions pour lutter contre la pandémie. Et propositions de tout ordre, c'est-à-dire des solutions innovantes d'ordre technologique, organisationnel, managérial, pourquoi pas, de formation, d'adaptation de processus industriels. Et donc on a fait un appel à tous les innovateurs qui voulaient travailler avec nous. On a développé un budget de 10 millions d'euros pour cet appel à projet, pour financer plusieurs projets d'intérêt. Et on a mis en place des équipes qui ont travaillé jour et nuit, des équipes d'expertise, d'analyse des projets, et des équipes également de contractualisation rapide, parce que ben, si on doit se mobiliser pendant la crise, il faut être capable également de passer les marchés ou des contrats très rapidement. Et le résultat, c'est qu'on a été assez surpris de l'ampleur des propositions auxquelles on a été confrontés, puisqu'on a reçu plus de 2580 propositions en moins d'un mois. Ce qui, je vous laisse l'imaginer, nécessite d'avoir des processus et des équipes derrière pour être capable de les traiter.
Voilà, pour regarder les dossiers, voir ce qu'on peut en faire. Autre exemple, et ça nous intéresse particulièrement dans une émission comme Soft Power qui s'intéresse aux industries créatives, aux numériques, aux industries culturelles. Vous faites aujourd'hui appel à des auteurs, je dis bien à des auteurs de science-fiction, vous, le ministère des Armées, pour imaginer l'armement de demain, des sortes de Red Team. En quoi est-ce que la science-fiction peut-elle aider à anticiper, selon vous, le monde de demain ?
La science-fiction, c'est penser hors du cadre. C'est-à-dire être capable de se projeter. Ça, c'est Isaac Asimov qui disait que c'est la seule branche de la littérature qui se soucie de la réponse de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Donc, en fait, si je pose la question à une communauté d'ingénieurs ou de militaires ou de scientifiques de savoir ce que sera, par exemple, le char ou l'avion de combat du futur, il y aura sans doute beaucoup d'innovations technologiques qui vont être citées, mais in fine, ça sera toujours un char ou un avion de combat. Alors qu'on pourrait imaginer que, j'en sais rien, l'avion du futur serait quelque chose qui soit mi-technologique, mi-vivant. Ça ne sera peut-être pas un avion d'ailleurs, c'est peut-être un autre type de système. Et donc les auteurs de science-fiction sont capables non seulement de se projeter et de penser hors du cadre, mais de le faire en imaginant toute la société et tout l'environnement qui accompagne ces réflexions. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas de demander à des auteurs de science-fiction d'imaginer l'armement du futur. C'est de demander à cette Red Team, comme on l'a appelé, qui est composée d'auteurs, de prospectivistes, de dessinateurs, d'imaginer des scénarios d'innovation et de disruption à 30 ou 40 ans, et de nous challenger, de nous confronter, de dire est-ce que vous êtes prêts à ça, est-ce que vous y avez pensé, est-ce que vous avez des solutions? Alors c'est un pari, hein. C'est bien évidemment, c'est pas quelque chose qui est classique dans le monde de la préparation du futur pour le ministère des Armées. C'est un pari qui est en passe d'être gagné, dans la mesure où nous avions un bon succès sur l'appel à candidature que nous avions lancé à la fin de l'année dernière. Et malgré d'ailleurs la crise, je pense pouvoir vous dire que on va tenir notre calendrier initial avec des propositions de très très bonne qualité. C'est une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on ne va pas embaucher chez nous ces différents auteurs, mais on va retenir des opérateurs pour nous permettre d'animer ces équipes-là, et puis on va leur demander de nous faire des restitutions cette année, l'an prochain, l'année d'après, et de confronter leurs idées à celles de l'état-major des armées, de la DGA, des scientifiques, des opérationnels, pour voir effectivement ce que l'on peut en retenir en termes de mode d'action.
Dernière question, Emmanuel Kiva, mais peut-être pour prendre un peu de la hauteur par rapport à ces exemples, est-ce qu'au fond, et je le dis pas de manière, c'est pas une question piège, c'est plutôt pour essayer de comprendre, est-ce que une industrie lourde, l'armée avec ses règles, est-ce que pour innover, pour faire de la recherche et du développement, pour expérimenter, est-ce qu'elle n'a pas finalement, c'est pas une condition sine qua non que de faire appel aux start-up, aux hackers, à la société civile, aux hackathons, bref, à des gens qui vous sont extérieurs pour pouvoir vous renouveler?
D'abord, je pense que le ministère des Armées vit avec son temps, et effectivement, on voit apparaître de nouvelles pratiques d'innovation, il s'agisse de design thinking, des start-up et autres, donc oui, on peut pas se priver de cette source de créativité-là. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on a des process et qu'on peut apparaître comme étant un ministère qui est extrêmement organisé. L'organisation, elle n'est pas au détriment de la créativité. Et quand vous regardez en fait l'excellente qualité des programmes d'armement qui sont en cours, il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui sont capables de faire des porte-avions, qui sont capables de faire des satellites, qui sont capables de faire des avions de combat. Et derrière, on travaille également avec nos industriels. Donc finalement, j'ai parlé tout à l'heure de chef d'orchestre, je pense que ce qui était nécessaire, c'est d'avoir tous ces instruments qui jouent ensemble, à savoir les industriels de défense, les industriels hors défense, les start-up, les PME, vous l'avez dit, les auteurs de science-fiction, les scientifiques, et de voir comment est-ce qu'on peut animer et essayer effectivement de briser les barrières entre ces différentes, s'il y en avait toutefois, entre ces différentes communautés. C'est en tout cas notre mission, et vous savez qu'il y a un aller-retour constant entre l'armée et le civil, le militaire tire la recherche et l'innovation, et aujourd'hui l'innovation peut aussi tirer le militaire, à nous d'essayer d'en profiter et d'échanger au maximum entre ces différents mondes.
Merci infiniment Emmanuel Kiva, dit Red Team, la tête de la Red Team, directeur de l'agence de l'innovation de défense. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir. On termine Soft Power à 19h27. Voilà, 19h27 précisément. On en reste là pour ce soir. Merci à Emmanuel Paquette du journal L'Express, Ouest-France, France Culture, Sandrine Cassini du journal Le Monde. Merci à Yves Barou, président du Cercle des DRH européens. Merci à Nicolas Prinsen, fondateur de Gloz, et à l'instant Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Mes invités chroniqueurs ce soir dans Soft Power, le magazine des industries créatives et du numérique de France Culture. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. En attendant, vous retrouvez demain matin avec les matins de France Culture. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de notre chaîne, une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous.